With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Là, je suis en train d'écrire un nouveau set sur l'addiction au jeu d'argent. Mon père était addict au jeu d'argent quand j'étais jeune. Et les marques, aujourd'hui, elles sont hyper agressives. Elles sont très agressives avec ça, on n'en parle pas et tout. Alors que ça, les paris, c'est incroyable. Winamax, il dit « Mets ta daronne à l'abri ». C'est incroyable d'avoir des slogans comme ça. C'est incroyable. Et parce qu'en fait, vu qu'on nous a mis l'argent comme espèce de dieu, tu vas chercher toutes les manières qui vont te permettre de l'avoir.
Exécuté par qui ?
Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent tout simplement ? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Cert Mathurin. Salut, Cert.
Salut Fabrice.
Comment ça va ?
Ça va et toi ?
Super, merci beaucoup.
Merci à toi.
Cert, tu es humoriste.
Ouais.
Et tu joues en ce moment un spectacle qui s'appelle Une histoire d'argent.
Tout à fait.
Donc autant te dire que quand j'ai lancé ce podcast il y a maintenant 6 mois, tu vois, je me suis dit, dis donc. Voici un très bon potentiel client. En tout cas, merci beaucoup. Je suis venu voir ton spectacle qui se joue. Alors, pour l'instant, ça se joue au Métropole.
Ouais, tout à fait.
Je sais pas trop si par la suite, parce que tu joues jusque fin mai, là, c'est ça?
Fin juin. Jusqu'à fin juin.
Et tu vas rejouer ensuite,
Ouais, je vais le rejouer. Je l'aime beaucoup, j'aime bien le jouer.
Ouais.
Donc, ouais, je vais continuer de le reprendre en septembre. La forme et le lieu, je sais pas encore, mais ouais. Je rejouerai, c'est sûr.
Je vous mettrai le lien de, parce qu'en gros, la meilleure façon de te suivre, c'est sur Insta, j'imagine.
Ouais, sur Instagram, site internet. T'as tous les infos dessus.
Voilà, je mettrai tout ça dans les liens, comme ça, si, dans les notes de cet épisode, n'est-ce pas? Afin que vous puissiez suivre, certes, si vous écoutez cet épisode un peu plus tard, parce que tu sais, parfois, il y a des gens qui écoutent des mois plus tard, et tu vois, le podcast, c'est magnifique.
Carrément.
T'as quel âge?
35.
T'as 35 ans. Donc, t'es humoriste depuis combien de temps?
8 ans, avec 4 ans en temps complet, et puis 4 ans où tu postes la journée, et le soir tu fais de la scène. Ça fait 8 ans que je suis monté sur scène pour la première fois.
D'accord. Et donc là, ça fait 4 ans où vraiment c'est ton job à plein temps.
Bah, ça l'était avant, sauf que c'est lui qui voulait pas que je sois son... je travaille pour lui uniquement. Mais au bout d'un moment, j'étais que humoriste.
Ouais. Ok. T'as fait une école de commerce avant ça?
Ouais, j'ai fait une... Enfin, j'étais diplômé il y a longtemps. Hein. J'ai travaillé en 2011. Ouais, j'ai un master en marketing stratégique et en audit conseil. Ça fait pompeux, mais on sait très bien que...
Et t'as choisi une vie de troubadour.
Et je pense plutôt que c'est l'inverse.
C'est la vie.
C'est surtout que je pense que d'ailleurs, c'est peut-être un des thèmes du prochain spectacle où je pense que je parlerai peut-être d'école et d'enfance et tout. C'est que on nous demande de choisir des trucs tôt dans la vie alors qu'on sait même pas ce qu'on veut vraiment faire.
Ouais.
Donc tu fais, tu suis d'autres gens et puis tu te retrouves, ah bon, moi j'ai fini et c'est pas ce que je voulais faire. C'est ce que tu sais pas vraiment. Ça prend du temps de savoir ce que tu veux faire.
Ouais. Vas-y.
Parce qu'adulte, il y aura pas grand monde qui ferait une école de commerce. Si on te demandait à 35 ans de commencer tes études en étant adulte, il y a plein d'études qui n'existeraient plus, je pense.
Putain, c'est clair. Ah oui, c'est une très bonne idée, ça.
Ouais, j'ai dû penser là. Il faut que je le note.
C'est
marrant comme réflexion.
Effectivement. Ceci dit, je rencontre aussi pas mal de gens qui se lancent dans l'entreprise, etc. Et tu vois, qui se mettent pour le coup à la gestion, à la compta, des trucs qui sont quand même un peu importants quand t'as une boîte, quoi.
Bah, le truc, c'est qu'en école, enfin, c'est ce que je dis un peu, c'est que c'est très flou. Toi, tu peux faire de la RH et de la finance, qui sont deux métiers qui sont complètement différents. Tu peux faire du marketing, tout comme tu peux faire de la logistique. Toi, c'est des... Donc, c'est pas en soi la gestion. Tout le monde doit l'apprendre. Moi, je suis artiste et je pense que j'ai jamais eu autant de marketing, de gestion administrative à faire que depuis que je suis humoriste. Alors que, parce que on est en France, on est dans un pays, dans le monde où il faut des règles comptables. T'es obligé de les... un boucher, un cuisinier, il doit savoir gérer une entreprise.
Et aujourd'hui, tu t'auto-produis ?
Ouais, je me produis tout seul.
C'est-à-dire que tu payes toi-même les théâtres dans lesquels tu joues.
C'est ça.
T'avances de l'argent avant qu'ils te, avant de vendre tes places, quoi, limite.
Ouais. Tu payes un graphiste pour faire ton affiche. Tu t'imprimes tous tes trucs toi-même. Tu loues les théâtres toi-même. Et après, tu espères gagner de l'argent. C'est marrant parce que là, juste avant d'arriver, je viens de recevoir un mail du théâtre. C'est le premier mois où je gagne de l'argent. Avec mon spectacle, j'ai gagné 862 € au mois de, le dernier mois, je pense que t'es venu, en avril. C'est le premier mois où je gagne de l'argent avec ce spectacle.
Sur, ça fait combien de temps que tu le joues ?
J'ai commencé en septembre à peu près.
Et c'est-à-dire que de septembre à avril, tu perdais de l'argent à chaque fois que tu jouais ?
En métropole, ouais, tu perdais toujours de l'argent. Tous les mois.
Ok, on va en parler. Trop intéressant. C'est un vrai truc. Hein,
là, je me dis, ah, mon loyer va être payé grâce à mes blagues de métropole ce mois-ci.
Putain, c'est ouf, hein, parce que, mais c'est un truc, je crois, dont les gens n'ont pas forcément conscience. Il y a une vraie éducation à faire, je trouve, par rapport au public, tu vois, de comment ça fonctionne quand, alors, certes, pas quand t'es Gad Elmaleh, quoi, tu vois, parce que, mais quand tu démarres et que tu t'auto-produis comme c'est le cas, c'est-à-dire que t'as pas de producteur derrière qui vient t'avancer de l'argent et te payer aussi, parce que c'est ça que fait un producteur. T'es un peu en train de, enfin, tu tiens tout avec
Ah, bah oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent au bout d'un moment, c'est que quand t'as pas réussi au bout de 2, 3, 4 ans à générer suffisamment d'argent pour te payer et payer ce que t'as, ben, tu arrêtes, en fait. Tu dis, ah, ok, je voulais faire ça, mais ce choix de carrière est trop, financièrement, je vais mourir de faim, quoi. Et ouais, ça c'est une partie opaque et qui est un peu, qui fait un peu partie du folklore, en fait, de l'humour. Les gens doivent avoir une espèce d'idéal, même Gad Elmaleh qui est multimillionnaire, faut pas trop que ça se voit non plus. Quand t'es vraiment en galère, faut pas trop que ça se voit non plus. T'as des espèces d'entre-deux où tu dois être cool, que tu sois en galère, que tu sois triste, que tu sois riche. Il faut que tu sois toujours accessible aux gens, donc ça fait partie un peu de l'humour, quoi.
Tu veux dire qu'il faut avoir un truc de façade, enfin.
C'est une personnalité, je pense. C'est une personnalité d'être globalement optimiste, quoi.
Tu dis ça avec une mimique un peu optimiste, un peu.
Non, sans être pour pas être simpliste et pas être un peu caricatural, mais moi je suis nature optimiste, c'est-à-dire que même si j'ai des soucis, ça va pas se voir forcément sur ma tête, quoi.
Ok.
Et sur scène, encore moins.
Et donc tu veux dire que ça fait 8 ans que tu fais ça, et que là, en tout cas sur ce spectacle-là, c'est la première fois que tu gagnes de l'argent depuis 8 mois que tu le joues maintenant.
Ouais, mais enfin oui et non. Je parle là, je te parle d'un cadre bien, c'est pour ça que c'est vraiment un métier qui est un peu opaque, les gens.
Ouais.
Sur ce spectacle-là, au Métropole.
Ouais.
Mais le spectacle, je le joue en province.
Oui.
Là, bon, en général, c'est rempli, c'est des salles un peu plus grandes. Je le joue en privatisation. J'ai joué pour la SNCF il y a pas longtemps. Là, je joue pour le Musée de l'Économie. Je joue pour la. Et là, t'es payé directement.
Ils t'achètent
ton spectacle à un montant qui est assez cool. Par exemple, bah, je sais pas, ça peut coûter entre 3 000 et 6 000 €. Donc en fait, tu perds de l'argent d'un côté, mais t'en gagnes de l'autre côté.
Okay.
C'est en fait à la fin. T'as plusieurs parties, et à la fin, faut que ça soit positif.
Okay.
Et tu peux perdre sur un certain. Bon, c'est qu'en fait, souvent, on dit, quand on fait de la scène, pareil, tu perds de l'argent, tu en gagnes en province.
Okay.
C'est un peu ça, parce qu'il y a beaucoup de compétitions, les théâtres sont très chers, donc tu perds de l'argent à Paris, mais tu vas en gagner en allant en tournée.
Et alors, pourquoi continuer à jouer à Paris de cette-là?
Parce qu'en fait, c'est une carte de visite. Si tu joues pas à Paris, t'existes pas vraiment. Et, donc moi, déjà, je suis parisien, donc c'est là où je suis, et, je prends du plaisir à jouer dans la ville et tout. Et le public, on dit souvent qu'il est plus dur, parce que comme ils sont plus habitués, les parisiens, à voir beaucoup de choses, bah ils sont plus exigeants, donc ça fait que si en général tu marches très bien à Paris, t'es bon à Paris, ça sera pas plus facile, mais un petit peu peut-être en province, quoi.
Mais il y a un côté
ils voient moins de spectacles.
Oui, c'est ça. Et puis tu joues toutes les semaines, toi, depuis plusieurs mois à Paris, là où en fait les gens en province, ils viennent te voir une fois, ou tu viens jouer éventuellement deux fois dans l'année, quoi.
C'est ça. Paris, c'est la seule ville en France où tu peux jouer tous les jours. Là, je joue 3 fois ce soir, demain je joue 4 ou 5 fois. Il y a que parce qu'il y a des théâtres, suffisamment de théâtres et suffisamment d'artistes pour pouvoir avoir ce niveau-là. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ben, techniquement, on est censé être plus fort, puisqu'on a plus de terrain de jeu, quoi.
Et on en reparlera, mais tu joues aussi dans des comédie clubs, donc dans les fameuses scènes ouvertes, etc., les gens qui connaissent pas, qui est un vrai truc qui s'est développé depuis 10 ans, qui permet à des jeunes humoristes comme toi, enfin des jeunes humoristes en tout cas, de taffer, d'aller se faire connaître, etc., quoi.
Et surtout, c'est pratiquer son métier, c'est la seule manière, en fait, quasiment, de pouvoir avoir un spectacle bien. Il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, à l'époque de Jamel ou de Gad ou de Florence ou même des inconnus, ils n'avaient pas ça. Ils écrivaient, ils allaient sur scène directement. Maintenant, plus personne ne fait ça. Tu passes en comédie club, tu travailles tes jokes, et ensuite, avec tout ça, tu entends écrire un spectacle.
Et tu travailles à chaque fois 10 minutes par 10 minutes, des morceaux, quoi, en tout cas.
C'est ça.
Ok. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet. La première question.
Moulaga.
C'est tout direct, hein, déjà. Parce que tu sais, moi, par exemple, j'ai appelé mon podcast Histoire d'argent. Je sais pas trop si tu l'as appelé Histoire d'argent pour ça, mais moi, j'avais vraiment l'envie de pas l'appeler Histoire de thune ou Histoire de blé ou machin, d'appeler le mot argent.
Ouais.
Parce que, en fait, déjà, de base, c'est un peu comme le sexe. Il y a, on utilise plein de synonymes pour pas le dénommer.
Ouais.
Tu vois.
Ouais, ouais, c'est vrai que, on a, c'est un mot, c'est, ça fait partie des mots qui intriguent, qui font cliquer, mais qu'en même temps, qui peuvent choquer, parce que on a tous, en fait, une histoire derrière, en fait, c'est ça. Comme on a, c'est des mots universels, c'est que on a tous un lien, c'est une histoire d'argent, et je pense que moi, je voulais aussi l'appeler comme ça, pour que ce soit le plus ouvert, c'est le mot qu'on connaît tous, et, toi, je sais pas pourquoi tu l'as appelé comme ça, mais moi, c'est au singulier, toi, c'est au pluriel.
Ouais. Enfin, histoire avec un S, parce que c'est plein de gens, toi, c'est ton histoire, toi, pour
ça.
Le coup.
Bah, en fait, ça m'a, au début, je l'avais pas appelé histoire, et après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai parlé du sujet de l'argent par le prisme de mon histoire.
Oui.
C'est comme ça que tu vois le spectacle, toi, c'est par mon prisme à moi. Et, c'est pour ça que j'ai appelé une histoire d'argent. Au début, je pensais à d'autres noms, pareil, je pensais peut-être à Moula, tous ces trucs-là.
Ouais.
Je me suis dit non. Grand public, pro, une histoire d'argent. Il y en a qu'une histoire, c'est la mienne, entre guillemets.
Trop bien. Quand je te dis argent, à quoi tu penses direct?
Maintenant, j'ai une vision, je te donne la vision de mon mec maintenant, quel outil, inégalité, objectif, ouais, les mots qui me viennent à l'esprit comme ça.
Ok.
Moi, je vois ça comme un outil, vraiment.
Qui te permet de pouvoir acheter des louer des théâtres, par exemple.
En fait, je me dis, je pense que plus jeune, je pensais que c'était une fin en soi, et maintenant, c'est juste un intermédiaire à quelque chose d'autre.
Qu'est-ce qui a changé entre-temps ?
C'est un peu ce que je dis dans le spectacle, c'est que je me suis rendu compte que j'avais accès à pas mal de choses sans avoir d'argent, parce que il y a d'autres. En fait, c'est un outil parmi tant d'autres pour avoir des choses. Tu veux, on veut voyager, on veut manger, on veut, et on pense qu'il y a que de l'argent qui peut te permettre ça, et c'est faux. En fait, t'as d'autres manières de pouvoir avoir des choses. L'argent est une de ces manières-là. Et en fait, vraiment, je vois comme un outil. Il y a des choses que l'argent. En fait, j'achète des trucs avec l'argent que je peux pas forcément. Je sais pas moi, avoir sans argent, quoi.
Auquel accéder.
Ouais.
Et quand tu dis inégalité,
c'est que il sera jamais réparti équitablement. Mmh. Est-ce que ça doit être le cas? Je ne sais pas. C'est pas moi qui répondrai à cette question-là. Mais quand je dis inégalité, c'est dans le sens qui dit argent dit inégalité. C'est-à-dire que c'est pas équilibré. Donc, c'est-à-dire un a plus d'argent qu'un autre. Ce sera toujours comme ça. C'est intrinsèque à l'argent.
Tu t'en parles d'ailleurs dans ton spectacle où t'es d'origine haïtienne.
Ouais.
Et tu expliques qu'en fait, tu t'es rendu compte à un moment donné que t'allais pas, enfin, en tout cas, avec votre famille, vous alliez pas à Haïti pour être en vacances, mais pour être riche.
Ouais. J'étais content quand j'ai trouvé ce truc-là.
Très bonne idée.
C'est complètement ça. C'est littéralement ça.
Qu'est-ce qui se passait exactement alors ?
Bah en fait, mes parents ouvriers, femmes de ménage, en France, j'avais pas grand chose, pas de vêtements de marque, rien du tout, pas accès à grand chose. Et on arrive en Haïti, on a des gens qui font à manger pour nous, on a une grande voiture, alors qu'on a le même revenu. Et on est les mêmes. Et c'est là que je me suis rendu compte que mes parents, ça leur faisait du bien. Ils allaient être riches, quoi. Ils allaient se En fait, il se sacrifiait une certaine durée pour pouvoir être riche à un autre moment. Et après, d'ailleurs, faut que j'ajoute dans le texte, et je pense que c'est le cas de plein de gens. Heureusement qu'on n'est pas riche, ce genre de personnes, on n'est pas riche trop longtemps. On serait des mauvais riches, je pense.
Donc,
on serait des mauvais riches. On sait pas être riche bien. C'est des gens qui font du jet ski, qui font des trucs du quad, ou je sais pas quoi. Heureusement que t'es riche que 2-3 semaines dans l'année. Sinon, la planète, elle serait foutue depuis bien longtemps.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, la planète.
Elle serait foutue. Parce qu'en fait, quand t'as pas les masses de thunes et que t'as une opportunité d'en avoir, soit en partant en voyage, donc dans des pays où le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, tu flambes, donc tu surconsommes, donc ça fait que c'est pas, heureusement que c'est pas trop longtemps, parce que c'était à l'esprit là, alors que je pense que je vais pas, les big millionnaires, les milliardaires, ils sont pas forcément dans la surconsommation de ce type-là. Je pense que c'est un état d'esprit, c'est que tu dis, ah, j'ai pas, là, je peux avoir, donc je consomme. C'est pour ça que je dis qu'il faudra pas que ça dure trop longtemps.
Bon, en même temps, les multimilliardaires, ils se baladent en jet privé, si tu veux.
Donc, ouais.
Il y a aussi
l'exemple est pas bon, l'être humain, il consomme, quoi.
L'être humain consomme, mais surtout pour moi, comme tu dis, c'est un outil. Donc en fait, si ça peut te faciliter la vie,
c'est ça.
Et que t'as je ne sais même pas comment je réagirais si moi-même j'avais un jet privé, tu vois. Mais si t'as l'occasion de t'avoir un jet privé et que tu te dis, ok, ça me permet de pouvoir voyager plus simplement sans passer par la case aéroport,
ouais, machin,
tout ça.
Surtout que moi je suis pas contre, là par exemple je commence à passer le permis avion parce que
OK.
Ouais, j'ai pas le permis voiture mais parce qu'en fait en Haïti, c'est les Caraïbes et tu peux aller du Nib, tu peux aller de la Cuba, c'est pas très loin par exemple, et le meilleur moyen de combattre c'est d'avoir un petit avion pour pouvoir aller aux Bahamas, par la République dominicaine, parce que les routes sont un cauchemar, souvent les avions les aéroports sont extrêmement chers, enfin c'est des petites distances pour aller en Martinique, ça coûte moins cher d'aller faire Martinique France que faire Haïti, Martinique, alors que c'est juste à côté.
Ah ouais, ok.
Donc, avoir un petit avion, un petit Cessna 4 places, ce serait beaucoup plus intéressant que...
Donc c'est un de tes projets, c'est ça?
Ouais, ouais. Je pense faire une partie de ma vie en Caraïbes, et comme tu le dis, hein, ce serait pratique, en fait, juste pratique.
Oui, c'est ça, ça t'empêche... pour moi, ça t'enlève de la friction, quoi, tu vois, dans la vie.
Donc, je suis pas contre de dépenser de l'argent.
Ok. Tu disais que, dans ton spectacle, tu racontes qu'en fait, quand t'as 8 ans... T'as pris conscience que des différences, c'est justement des inégalités.
Ouais. Bah quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte. Que je pense jusqu'à un enfant, tu mets un enfant riche, un enfant pauvre, il se rend pas compte. Toi, il est juste un enfant. Il joue et puis à un moment, tu rentres à l'école. Et c'est l'école, je pense que c'est l'un des premiers endroits où tu te compares. Tu vois, il y a des gens qui ont ça. Lui, il a un 4 couleurs. Moi, j'ai un vieux stylo. Lui, il a une trousse Spider-Man. Toi, tu l'as pas. Et c'est là que tu commences à. Pourquoi moi j'ai lui là ça et moi j'ai pas ça? Et dans le spectacle, je le dis, c'est un moment où je change d'école et les gens ils veulent pas jouer avec moi parce que bah, j'ai rien de marque. On me le dit et ça me fait mal au cœur. Je m'en souviens un peu comme si c'était pas hier, mais toi je me souviens. Toi quand t'as des petits trucs comme ça, des petites madeleines, ouais, de Proust, un peu négatives, et c'est resté dans ma tête et je me souviens, je mentais, je dis que j'avais des trucs alors que je les avais pas parce que pour pouvoir m'intégrer. Et c'est là où j'ai commencé à tilter que ok, donc quand t'as pas d'argent, tu peux pas t'acheter ça, c'est pas l'argent en lui-même. Et c'est la phrase qu'un peu mon père me disait, c'est que on n'est pas pauvre, on a juste pas d'argent. Et c'est un truc qui est resté où c'est aussi un état d'esprit, la pauvreté. C'est aussi un état d'esprit. Et je suis pas aujourd'hui pas beaucoup plus blindé. Par contre, je ne me ferai pas passer pour un pauvre parce que je me suis enrichi de plein d'autres trucs et j'aurais plus ce sentiment d'infériorité parce que j'ai pas de thunes. Et c'est ce que j'essaie de développer avec le spectacle. C'est que tu n'es pas obligé d'avoir de la thune pour te sentir à l'aise avec toi-même. C'est que tu peux apporter au monde beaucoup d'autres choses. Ton argent, en général, comme on dit souvent, on meurt pas avec. Si t'as été utile aux autres, que t'as fait des choses, en fait, t'as cette espèce d'assurance. Il y a des gens qui sont très sûrs d'eux alors qu'ils ont pas de thunes. Parce qu'en fait, ils ont cette espèce de confiance en eux et je pense qu'elle est importante dans ce monde-là pour pouvoir te sentir bien, sinon tu te sens un peu dévalorisé.
Et t'as la sensation que c'est hyper intéressant cette phrase effectivement de ton père qui dit on n'est pas pauvre.
On n'a juste pas d'argent.
On n'a juste pas d'argent. T'as la sensation, qu'est-ce que t'as la sensation que tes parents t'ont inculqué ou en tout cas de quoi tes parents t'ont nourri ou t'ont enrichi, parce qu'on va reprendre la métaphore, si ce n'est de l'argent?
Deux choses. La première, c'est que ma mère, c'est la gestion est plus importante que l'argent, la quantité d'argent. Ma mère, elle a pas des masses de thunes, elle est femme de ménage. Par contre, elle a réussi à faire des trucs dans toute sa vie. Je comprends que des gens en gagnant plus, ils n'auraient pas réussi. Sa gestion d'argent, elle a pas d'énormes besoins. Ce qui fait qu'en fait, quand t'as pas d'énormes besoins, 1 800 euros, c'est énorme. Parce que tu ne dépenses pas pour aller au resto, pour un truc. Donc, ça fait que, elle met 1 200 euros de côté, tous les mois. Et donc, elle a une maison en Haïti qui est incroyablement grande. Alors que moi, je suis incapable, alors que je gagne 3-4 fois plus qu'elle, de mettre autant de, parce qu'en fait, on n'a pas le même. C'est là que tu te rends compte que, en fonction de le minimaliste, je dis pas d'être minimaliste, mais, parfois, ça peut être important. Souvent, tu veux gagner plus d'argent, alors que parfois, t'as juste à te détendre par rapport à tes besoins. Est-ce que t'en as vraiment besoin de ça? Donc ça, c'est un truc que ma mère m'a intégré. Elle souvent dire, est-ce que t'as besoin de ça? Je suis pas très cadeau. Par exemple, elle nous a dit, j'ai pas besoin de ce cadeau. Pourquoi tu achètes ce cadeau? À chaque fois, il demandait, t'as gardé le ticket de caisse? Donc, c'est l'espèce de trucs qui sont restés un peu.
Parce mais qu'elle allait le rendre, c'est ça?
Ouais, parce qu'elle a pas besoin. En fait, elle a pas besoin. Donc, et sans être sectaire, sans être, non, parce qu'elle a des robes et tout, des trucs comme ça. Ouais. Mais elle est jamais rentrée dans le monde commercial, en fait, des marques et tout. Donc, elle va acheter ce qu'elle a besoin sans, et quand t'as cette vision du monde sans être trop, spammée par les marques, en fait, le monde coûte moins cher, hein. Il y a beaucoup de choses qui coûtent cher parce que le parfum, toi, 80% de la valeur d'un parfum pour avoir du marketing, c'est la communication. Quand tu veux juste un truc qui sent bon, tu peux trouver des parfums qui sentent bon pour 7 euros un parfum. Le Chanel numéro 5, il coûte pas ce prix-là. C'est la com qui coûte. Et ma mère, elle s'est jamais fait avoir par la com, par le marketing. Donc ça fait qu'elle a plein de trucs, mais elle a jamais fait attention à la com. Donc c'est intéressant. Et l'autre truc, c'est mon père qui a toujours eu des grandes envies en n'ayant pas grand-chose. Donc, c'est genre, son nom, il s'appelle Lasek, c'est le nom d'un agronome haïtien qui était très connu et tout. Et il m'a appelé certes l'esprit qui était certain que j'aurais une jolie vie. Faudrait faire un peu de la philosophie un petit peu.
Ah, c'est cool.
Mais,
c'est trop bien comme, comme histoire.
Et je trouve ça cool, en fait, de te montrer que c'est pas ce que tu as. En fait, tu choisis pas où tu nais, mais en fait, tu peux choisir ce que tu deviens un petit peu. Et j'ai un peu gardé ça d'esprit de mon père, dans le sens où, ma mère qui a pas un rejet, mais genre, ça s'est fait un peu naturellement, parce qu'il y avait pas de marque, tout simplement, là où elle a grandi. Et mon père qui, même si t'as rien, qui met d'espoir dans ses enfants et dans le truc, même s'ils ont rien. Ok, tu peux avoir d'espoir. Et faire des trucs assez cool dans ta vie sans avoir des masses de thunes. Et ça m'a un peu façonné, je pense.
Ouais, c'est cool, hein. Ok.
Désolé, réponse un peu longue.
Bah, alors non, parce qu'en fait, désolé. Parce qu'on a le temps, en fait.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
L'autre truc dont je voulais te parler, c'est qu'est-ce qui t'a incité à te lancer dans des études de commerce?
Je t'avais dit hors caméra ou hors micro tout à l'heure. Je te dis, c'est quand t'es jeune. Bah, si, on l'a dit tout à l'heure. C'est que je savais pas.
Moi, je me souviens je savais pas ce que je voulais faire.
Je me souviens très bien. Bah, j'ai une histoire un peu marrante sur ça. C'était l'argent, ce que ça peut te faire et ne pas faire. Je suis en DUT, deuxième année de DUT à Sarcelles, DUT technique de commercialisation. Et on avait pris le DUT avec mon pote Stein, qui est mon meilleur pote d'enfance. Aujourd'hui, on est toujours ensemble. On a une société ensemble. Et on dit, mec, qu'est-ce qu'on fait? On est au lycée, on nous apprend pas que la prépa, ça existe. J'avais découvert la prépa, ça existait quand j'étais en école de commerce. Tellement mon lycée était claqué, on nous en a même pas parlé. Donc on avait pas trop de choix, c'était soit DUT, soit BTS, soit université.
T'étais où au lycée?
À Pers-en-Beaumont, à Beaumont, sur l'Ouest. Okay. 50% de taux d'échec au bac. Je crois que c'était le pire lycée d'Île-de-France ce jour-là, cette année-là. Donc on passe le DUT, et on se dit, il n'y avait pas d'autre option, en fait. C'était ça. Et on a connaissé deux personnes qui avaient fait ça. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, les études, c'est souvent par réseau. C'est que, on t'entend parler. Moi, le seul gars que je connaissais, il avait fait ce DUT, qu'avec des diplômes chez moi. Donc, on a fait comme lui. Et donc, j'ai dit à mon pote, ouais, il y a un gars qui a fait ça. Rachid, il a fait ça. Et c'est Rachid, viens, on fait ça. Ça s'est passé comme ça. J'aurais eu un pote qui aurait fait prépa. J'aurais peut-être dit, viens, on s'inscrit en prépa. Mais je savais même pas que ça existait. Donc, on fait le DUT. Et je me souviens toujours, on est en 2000, le bac on l'a eu en 2007, donc on est en 2006. Non, en 2007, 2006, un truc comme ça. Et on est 10 potes. On est en DUT. Il y a, c'est l'informatique. Il y avait pas encore des ordinateurs il y a 15 ans. Ils étaient, il y avait des disquettes et tout. Ouais. Je suis l'ancien, mais c'était comme ça il y a 15 ans. On se rend pas compte comment ça a évolué les ordinateurs en peu de temps.
Toute vitesse.
Et donc, on avait les trucs, et on dit, les gars, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine après le DUT? On dit, je sais pas, on a entendu parler qu'un gars, il a fait concours passerelle, qu'un concours d'école de commerce. Il dit, venez, on fait ça. On se met à 10 autour de l'ordinateur, chacun se met autour d'un ordinateur, et on dit, venez, on s'inscrit pour les concours d'école de commerce. On s'inscrit, on fait tout le process, on rentre nos noms et tout. Passerelle, c'est concours des écoles à, bah, Pau, à Nice, à Grenoble, dans plein de villes de France. On fait tout le process et tout. Et on se motive nous-mêmes comme ça. Et, à un moment, il faut rentrer, il faut payer 250€. Pour pouvoir valider l'inscription dans toutes les écoles. Ce jour-là, il y avait que moi qui avais 250€ sur son compte. Parce que je travaillais au McDo à Pigalle à cette époque-là. J'ai perdu tous mes potes à ce moment-là dans la scolarité. Parce qu'ils n'avaient pas les 250 balles pour pouvoir payer le concours d'école de commerce. Et donc là, eux, ils ont fait d'autres trucs. Moi, j'ai fait mon école. Et c'est marrant que c'est juste ce coup de CB de 250 balles qui ont fait que j'ai perdu mes 9 potes dans ma scolarité.
Ouais. Ça se joue à
pas grand-chose.
C'est tellement pas cher, 250€ par rapport à ce que tu vas gagner dans ta vie.
En début de mois. Et j'ai été payé par le McDo, parce que je travaillais au McDo Pigalle à l'époque, je me souviens. Et peut-être que ça aurait été 10 jours plus tard, j'aurais pas pu non plus, j'aurais dit, vas-y, on fait ça plus tard. Et tu connais, t'es jeune, t'as 19, 20 ans. Quand tu dis plus tard, bah, tu le fais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai perdu mes potes. Enfin, quand je dis pété, c'est toujours mes potes aujourd'hui. Oui. Là. Mais que nos chemins se sont séparés.
Ouais, la scolarité, c'est.
C'est drôle, hein.
C'est séparé. Putain, ouais, ça se joue pas à grand-chose.
Pas grand-chose, hein.
Et comme quoi, bah, comme tu disais, l'inégalité, elle est là, quoi.
Là, elle est là.
Elle est présente. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de... Parce que tes potes bossaient pas en dehors de leurs études, et toi, tu bossais.
Ouais, moi, je bossais. Peut-être, il y en a peut-être un ou deux qui bossaient, mais pas tous. J'avais un peu de thunes ce soir, à ce moment-là. C'était un hasard, hein, toi, vraiment. C'est pas comme si t'étais contrôlé, hein, t'as 19, 20 ans. T'es, je sais pas, t'es le 7, 8, tu viens de recevoir ton paiement. Ta paye, ok, j'ai 700€ sur mon compte.
Non, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'était une volonté de ta part d'aller travailler?
Ouais, franchement, je me suis vite rendu compte que j'avais pas d'argent de poche, si je travaillais pas, j'aurais jamais rien. Donc, à 16 ans, j'ai commencé à bosser. Je me souviens, j'ai ramassé les betteraves, dans les champs, j'étais payé en francs à l'époque et tout. J'ai toujours bossé. Depuis que j'ai 15-16 ans, j'ai toujours travaillé. Mes parents n'avaient pas des masses de thunes, donc il n'y a pas des masses de choix, quoi. Si tu veux un petit peu de trucs, j'allais au puce de Clignancourt chercher les Reebok classiques, et à 40€, premier prix, tu payais ton ticket de métro, aller-retour, ça coûtait 17 balles en ticket. J'avais pas le choix.
Attends, t'allais t'acheter des pompes moins chères, c'est ça que tu voulais dire?
Ouais, j'allais au plus de Clignancourt, okay. Plus le ticket de train, parce que j'habite fin fond de la banlieue parisienne.
Ouais, c'est
aller
cher.
À Paris, c'est un périple, ça coûtait cher. Tu voulais te faire un petit McDo, tu retournais, ça coûtait 100 balles presque la journée. Tu pouvais pas faire ça très souvent, donc t'allais une fois tous les deux mois. T'allais chercher tu savais que dans ta poche, le gars, il négociait. Il te disait, prends ces chaussures-là, mais tu les regardais, tu disais, ah, je sais pas trop, peut-être la prochaine fois. Alors que tu sais très bien que t'as pas du tout les moyens. Toi, t'as un budget de 60€ dans ta poche, t'as pas un billet de plus, c'est celle-ci et rien d'autre. C'est marrant, avec du recul, c'est marrant.
Ouais, ouais. Et dans ton objectif, tu te disais, ok, je vais faire une école de commerce. Est-ce qu'il y avait derrière aussi l'idée de te dire, d'essayer de se sortir de cette précarité de tes parents et tout? T'avais en tête l'idée de pouvoir te dire, ça va me permettre de pouvoir aller chercher un job?
Ouais, je me souviens, je regardais, quand je regardais les magazines Onicep et trucs comme ça, je regardais les salaires, combien ils gagnaient et tout. Je me souviens, je voulais être avocat et des métiers parce qu'ils gagnaient 3 700€ par mois. Pour moi, c'était incroyable, ces chiffres-là. Et en école, il y avait des marketing, il y avait les chefs de produits marketing. Je voulais être chef de produits marketing. C'était le métier un peu à la mode et tout. Et gagner, rapporter 3 500€. Et donc, je me suis dit, il n'y avait pas 36 options, donc il fallait faire une école de commerce. Et c'était hype. C'était un peu hype. Je me suis dit, bah, vas-y, on va tenter, quoi. L'école, j'ai jamais eu beaucoup de difficultés. J'ai jamais vraiment beaucoup bossé. Toi, j'étais ce genre d'élève qui arrivait toujours à avoir la moyenne sans trop savoir pourquoi. Donc je me dis, on va continuer, et je me souviens à l'époque, je voulais partir en fait de... Je me suis rendu compte que si je voulais faire des trucs, il fallait que je sorte de la banlieue. Donc quand j'ai fait mes études, j'ai pris l'école de commerce la plus loin de chez moi. Vraiment, c'était un de mes critères. Pau, 850 km, ah oui. Je vais là-bas. Vraiment, j'ai dit, je vais là-bas. Il faut que je voie autre chose. Parce que je sentais qu'il fallait que je voie autre chose pour ouvrir mon esprit et élargir mon esprit.
C'est sûr que le pays, enfin le Bayern, ouais. C'est un autre délire. Hein.
Ah, c'est un autre délire. J'ai appris la culture du rugby, les férias, plein de trucs positifs et négatifs, sans doute d'autres trucs. Mais ce que je suis aujourd'hui, j'enseigne, je sais pas, c'était une espèce d'intuition. Fait qu'il faut, plus tu sais de choses, plus tu comprends l'universalité du monde et les différentes manières de vivre, plus tu pourras le maîtriser, entre guillemets, le game. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'apprends beaucoup aux enfants et les jeunes à qui je bosse, c'est instruis-toi, comprends l'autre pour pouvoir pas subir. Le monde est hyper complexe. Et plus tu sais de choses, plus tu pourras réfléchir. L'intelligence, c'est que de l'adaptabilité. Mmh. C'est capacité à s'adapter. Et j'ai assez rapidement compris ça. Je sais pas d'où, mais j'ai assez rapidement compris ça.
Ça vient de tes parents. Je me demandais, est-ce que tes parents, ils t'ont poussé aussi à faire des études ou pas? Parce que il y a parfois ce truc, tu vois, chez les parents de dire, tu vas t'en sortir.
Bah oui, parce que c'était à eux, c'était, ils en ont pas fait. Ma mère a dû arrêter l'école à 12 ou 13 ans. Mon père, pas beaucoup plus tard. Donc, c'était une espèce de rêve de, ils sont venus d'Haïti dans les débuts des années 80. Enfin, difficile, pas de papier à la base, on vient faire des enfants, il faut qu'ils fassent des études, toi, il faut pas qu'ils aient la même vie que nous, donc ils te poussent, c'était très important l'école pour mon père. T'as eu combien? Pourquoi lui il a eu 18 et toi t'as eu 14?
Ok.
T'as une espèce de truc où j'étais l'aîné, donc j'avais pas trop le choix.
T'as combien de frères et sœurs?
Deux petites sœurs.
Je me demandais comment tu en viens à te dire, tiens, en fait, ça pourrait être cool de faire de l'humour.
J'ai eu un resto, en fait. De 2012 à 2014.
T'as eu un resto?
Ouais, j'ai eu un restaurant.
T'as géré un resto?
Ouais, j'ai géré, j'ai ouvert, j'ai fait toute la carte de bouffe et tout.
Tu sais quel autre humoriste a eu un resto?
Artus. Non, il était cuisiné.
Ah, c'est pas Artus.
Non, il était cuisiné, mais il a pas de resto.
Fabien Olicard, il a eu un resto de Savoyard. Oh,
ok.
À La Rochelle.
Ok, j'avais les deux.
Je te souhaite son succès.
Fabien, que je connais bien, ça fait longtemps que je l'ai pas vu d'ailleurs.
Et il avait ouvert un resto ouais. Savoyard à La Rochelle, tu te rends compte le délire? Bon, bref.
Ouais, mais.
C'est marrant.
Je sais pas si. Ouais, j'ai eu un resto.
Ok.
J'ai eu un resto, et en bas, donc, il y avait la bouffe, et en haut, il y avait une salle, où on se servait pour faire des spectacles, et des concerts, et du stand-up. Parce que on aimait bien ça avec mes potes. Et, c'est ça qui m'a mis un premier pied dedans.
Tu veux dire que t'as pris un resto en te disant, il y aura peut-être moyen de faire.
Non. J'aime bien la phase de Steve Jobs qui sait que tu sais pas forcément ce que tu fais, et plus tard, tu relis les points.
Ouais.
C'est un peu ça. C'est que, en fait, je me souviens, moi, je travaillais chez Groupon à l'époque. Mon pote, il travaillait en finance, un autre, il était acheteur chez Leclerc, je me souviens. On jouait à FIFA. On devait être en 2010, un truc comme ça. Et on a fini nos études de commerce, donc 2011. On finit nos études et tout. Et on sent très rapidement qu'on est en train de se mentir. Il y a un truc qui va pas. On est censé avoir été en haut du game. Pourquoi on n'aime pas ça? Pourquoi on n'est pas heureux? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Et on joue à FIFA, on dit, on fait pause, puis ça va toujours. On était quatre à l'époque. On avait ouvert à trois le resto. On dit, les gars, venez, on met une idée sur un papier, trois idées de business qu'on voudrait faire.
Oh.
On essaie de les faire. Et, on note des trucs. Moi, Stan, je me souviens, il avait noté qu'il voulait ouvrir une laverie qui vend des sneakers. Enfin, t'as des idées un peu loufoques et tout. Et Mathieu, un de mes potes, Mathieu Jean-Baptiste, il note sur une de ses trois idées un restaurant de pizza Al Taglio avec c'est pizza à la part. Et Dieu, c'est pas con ce truc-là de pizza à la part et tout. C'est vrai que les pizzas elles sont trop grosses. J'aimerais bien manger plusieurs pizzas avec des saveurs différentes. Tu prends trop une thaïlandaise, une truc, et on trouve l'idée pas bête. Et surtout, on est des grands mangeurs. Et on s'est dit, venez les gars, il y avait Ryanair à l'époque. C'était les débuts de Ryanair EasyJet. Et on est parti pour 9 € aller-retour à Rome, tous les quatre. Et on est parti à Rome bouffer des pizzas et voir comment ils font les pizzas. Vraiment, ça s'est passé comme ça. On est revenu, on a dit, vas-y, on tente le truc, on ouvre le resto. Et pendant tout le process, on se dit, mais les gars, on n'a pas de thunes. Mes potes, ils étaient, moi, je suis un peu le foufou de la bande. Ils disent, mais vas-y, on n'a pas de thunes, on n'arrivera pas. Les gars, venez, on fait tout ce qu'on a à faire, on fait le business plan, on trouve un lieu, on fait les recettes et on verra l'argent plus tard. L'argent, il viendra. L'argent, c'est un flux, ça va venir plus tard. On trouve un lieu.
Excuse-moi, je te coupe, mais t'as déjà cette idée de te dire, ok, l'argent va venir.
Ouais, je sais plus. J'y pense toujours à la fin, en fait. Et à la fin, fallait y penser, mais on l'a réussi à l'avoir. Et on ouvre au 25 boulevard de Bonne Nouvelle, un resto à 300 000 €, alors qu'on a 24 ans, et on est trois mecs de banlieue. Parce qu'on y a pensé l'argent à la fin. On dit que si on croit en nous, l'argent, il va venir. Et l'argent, il est venu, et je me souviens toujours, le 12 novembre 2012, on a ouvert. Et je lui ai dit, les gars, l'argent, on a fait faillite à 3 ans plus tard. Mais c'est pas grave.
C'était une bonne expérience, non?
C'était une expérience incroyable, tu sais. On a fait les business plans, on a convaincu des gens, on a visité plusieurs locaux. Je me souviens, on avait un local, on a appris beaucoup de choses. On a fini au Prud'homme avec une de nos salariés qui nous a essayé de nous arnaquer. J'ai appris énormément, en fait. Ça m'a beaucoup. Et on a organisé des spectacles et j'ai vu des humoristes et ça m'a donné le pied pour la vie d'après qui était celle qui était peut-être sans doute faite pour moi. Si je dis que c'est. Tu sais pas pourquoi t'as fait ça, mais ça t'amène à un autre point. Et, Et donc, ouais, on a ouvert ce resto 2012 qui s'appelait Rendez-vous. Donc, de 2012-2014.
Attends, je te coupe, mais c'est fou parce que moi, j'ai rencontré toute la bande à Bref, Kian Kojandi, ouais. Navo, et tout, ouais. Kairon, etc. Ouais. Parce qu'en fait, ils se donnaient rendez-vous dans une pizzeria boulevard de Bonne Nouvelle.
Ouais, le Pranzo s'appelait.
Le Pranzo.
Juste à côté.
Qui était juste ouais. Mais, bon, qui a fermé avant, enfin, j'imagine.
Un petit peu avant, ouais.
Avant que toi tu ouvres. Ouais. Et qui a créé aussi cette bande-là. Donc, ouais. C'est assez ouf que vous soyez retrouvés sur cette idée, quoi.
Et ouais, c'était le début, c'était le. Un peu le début du stand-up, tu sais, il y avait pas grand chose et tout, donc moi il y a plein de mecs comme Ramzy venait souvent manger, il y avait Farid, des gens aujourd'hui qui sont Bounaïmin, qui sont connus et qui venaient parce qu'il y avait pas, parce qu'on leur donnait un départ de pizza et tout le monde était trop content parce qu'il y avait pas de lieu où tu venais faire du stand-up et on te donnait un peu à Seb Melia qui donnait des cours de stand-up avec Nguyen, et au bout d'un moment je me dis viens on tente le truc, j'ai appris, j'ai compris comment ça fonctionnait un petit peu, je suis monté en 2012 la première fois. J'ai fait un bide incroyable. J'ai jamais remonté en 3 ans.
Ah merde.
Et à la fermeture du resto, je me dis, vas-y, on retente. T'as vu comment ça se passait? T'as vu que c'était un métier écrit correctement? Et là, ça s'est mieux passé. J'ai créé un sketch sur mon prénom, Certes Fesses, blablabla. excellent sketch. Excellent. Et après, je suis retourné en entreprise, au Galerie Lafayette. Et parce que je fallait payer les dettes du restaurant, j'en avais 70 000 euros de dettes chacun. Fallait ouais, c'est les trucs.
Tu les as toujours ces dettes?
Non, on a fini.
Putain.
Mais l'argent c'est un flux. En fait, tant que t'as la santé et que t'es un bosseur, l'argent c'est un flux.
Ok mec, tu me dis ça maintenant.
Ouais.
Mais à l'époque, quand tu sors de cette aventure et que tu te retrouves avec 70 000 boules, t'as pas grandi dans le fric, dans l'opulence, etc. Donc j'imagine que 70 000 euros pour toi c'était
énorme.
Énorme.
Surtout qu'en plus j'avais ma dette, mon prêt d'école de commerce.
Oui.
Je dois avoir 100 000 euros à rembourser à 26 ans.
Mais donc comment tu fais ça?
Je travaille comme un malade. Je travaille tout le temps. J'avais un taf de jour, de nuit, c'était technique, j'étais livreur à vélo, je donnais des cours d'échecs, je taffais tout le temps. Et je me souviens, il y a une autre histoire assez intéressante, c'est que la scène m'a quand même amené des trucs, c'est que je me suis rendu compte que mon spectacle, je pense qu'il vient du nom, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de gens. Je devais de la thune à Paris Initiative. En fait, on a gagné après à taux zéro pour le resto. 30 000 euros qu'ils nous ont prêté chacun. Et moi, j'ai eu plus parce que j'étais au chômage, je crois, à ce moment-là, un truc comme ça. Et ils nous les donnent. Mmh. Et je galère à les rembourser. Donc, j'allais rembourser mes dettes. En plus, moi, après mon resto, je me lance dans une carrière d'humoriste. Donc, je suis à moitié fou.
Là où mes associés... Ah, donc, tu fais tout de suite le pont, en fait, en disant...
Ouais, mais je travaillais la journée et le soir, j'étais sur scène. Okay. Mais j'ai senti qu'il fallait que j'arrête parce que je commençais à avoir des petites opportunités. Donc, arrêter. Alors qu'il y avait 900 balles par mois. Donc, c'était un peu technique. Et les dettes, elles montaient. Les taux d'intérêt, ils montaient. Jusqu'au moment où je reçois une lettre du tribunal où par initiative me m'a signé au tribunal parce que je remboursais plus. Et j'ai une phrase que je dis dans mon spectacle que mon pote m'a vraiment dit, il me fait mec, on peut pas tondre un œuf. C'est-à-dire que j'ai pas de thune en fait. On peut pas tondre un œuf quoi. J'ai pas d'argent, je peux pas vous rembourser. Et attendez. Et en fait, j'ai eu une espèce de je comprends les gens, c'est ça aussi le but de mon spectacle, c'est toutes ces expériences de vie qui fait que je comprends qu'il y a des gens qui tombent en panique, qui sont en crise. Il y a trop de pression en fait. C'est dur. Je pense que personne n'a pas envie enfin peut-être des pourcentages très minimes de pas rembourser, c'est qu'ils peuvent pas, c'est qu'il y a un truc. Et ça mais sauf que ça te et je me souviens, je paye pas et je me rends convoqué au tribunal et en fait, j'ai confiance en moi. Je me dis je vais aller au tribunal. Et en fait, je sentais que j'allais m'en sortir. J'arrive au tribunal de Pontoise. J'y vais en skate, je me souviens. Un branleur. Vraiment, j'y vais en skate, mais avec le cerveau prêt. C'est là où tout est beaucoup dans la tête et dans le cœur. J'ai le cerveau et le cœur prêt. J'arrive au truc, il y a l'avocat par initiative et le truc. Et il y a le juge qui est là. Et elle me dit, affaire 4373 qui oppose monsieur Mathurin par initiative. Là. Ok. L'avocat, il dit, voilà, il a pas payé ça, il nous doit 12 000 euros, je sais pas combien, je me souviens plus des chiffres, plus des intérêts, et leurs intérêts, c'était abusé. Tous les mois, ça rajoutait 300 euros, voilà, tous les mois, parce que tu payes pas, ça. Il parle. La juge, elle me fait, monsieur Mathurin, à vous de parler, je suis tout seul, j'ai pas d'avocat. Et je sors ma fraîche, je fais, madame le juge, franchement, j'ai payé. J'ai bien été élevé, j'ai tenté une aventure entrepreneuriale, ça a pas marché, je vous jure, j'ai payé. Mais comme on dit, on peut pas tondre un œuf, j'en sors pas. Elle sourit. Elle fait, il n'y a pas de souci pour payer ma dette, je suis un entrepreneur français j'accepte la conséquence. Par contre, il m'ajoute des intérêts tous les mois depuis 4 ans. j'ai pas payé ça. Ça, moralement, ça n'a pas de sens. Ils profitent, ils assomment quelqu'un qui est déjà par terre. Donc, moi, je veux bien rembourser la dette, mais, et je montre, et j'avais juste écrit sur un bout de papier ma dette initiale et les intérêts à côté. Elle regarde ça, elle fait. Et elle dit, c'est vrai? Elle fait, oui, c'est vrai, c'est la loi qui me, elle dit, OK. Monsieur Mathurin, vous avez, combien de temps vous avez payé ça? Je fais, franchement, vous me laissez 5 ans, je renvoie retour remboursé sous 5 ans. Fait d'accord. On enlève les intérêts, monsieur Mathurin remboursera capital initial. Je sors de là au bout de 15 minutes et j'ai eu ce que je voulais. Parce que la juge, en fait, c'est un être humain. Et elle se rend compte que c'est abusif. Et parce que je sais parler, parce que j'ai appris à parler, parce que j'ai, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément cette chance-là, qui sont assommés. Et c'est là où je me suis dit, c'est pas une histoire d'argent, en fait, c'est une histoire de gens. Elle a juste compris la situation. Et j'ai fini de rembourser aujourd'hui. Et c'est leur intérêt, qu'ils se les mettent dans le cul. Et c'est toutes ces histoires-là de vie qui ont été des hauts et des bas qui font que je suis arrivé à ce spectacle-là. Et en fait, quand le déclic, c'était, j'étais confiné tout seul. Et je vois Elon Musk Jeff Bezos qui gagne plus 27 milliards en 3 mois parce que, et je vois des gens, moi, je vois dans les gens, il y a un gars qui s'est suicidé. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Et j'essaye de, en fait, le but du spectacle, c'est de parler de la thune, mais on sera pas Elon Musk, on sera pas Jeff Bezos. C'est narrant, hein, tous les mille ans, des mecs comme ça. Par contre, comment on peut essayer d'avoir une jolie vie, quand même, sans, et c'est là où, c'est la morale un peu du spectacle, où je parle. J'ai accepté de parler de mes failles à moi. J'étais gigolo. J'en parle dans le spectacle. Ou le fait de pas avoir de thune, ça peut prendre des décisions un peu stupides, que tu pourras considérer comme stupides. Parce que, en fait, la société nous met une pression incroyable et voilà, quoi.
C'est pas parce que t'es, enfin, tu trouves que le fait d'avoir été gigolo a été une décision stupide pour toi?
Non, sur le moment, t'as honte, en fait. C'est des décisions de honte. T'as honte. Avec du recul, en fait, tu comprends et c'est aussi le principe de l'humour. On dit souvent drame plus temps égale comédie. C'est-à-dire que tu galères, tu te rends pas compte que c'est drôle, t'attends, et c'est un peu marrant cette histoire-là. c'est souvent ça la comédie, hein. C'est un truc dur qui tu laisses, tu le marines, tu l'intègres et tu le transformes en blague, quoi.
Parce que t'étais à la fois prof d'échec et en même temps gigolo, c'est ça?
En fait,
en même temps,
j'ai arrêté de bosser. Parce que je voulais c'était dur d'être sur scène le soir, d'écrire la journée en travaillant, c'était pas possible. Donc j'ai arrêté de bosser, je travaillais au Gala Fête. Et donc de midi à 14h, j'étais livreur pour Take It Easy, l'ancêtre de Uber Eats.
Ouais.
De 15h à 18h, j'ai donné des cours d'échecs. Et aujourd'hui, je suis président d'un club d'échecs et je transfère le jeu d'échecs à plein d'enfants de banlieue. Donc c'est là où la vie, elle est, tu sais pas, c'est un des livreurs à vélo qui je me souviens, était à République, on était calé à République et tout, comme tu vois plein de livreurs calés. Et il me dit, ouais, je donne un cours d'échecs, je suis prof d'échecs, est-ce que quelqu'un sait jouer qui pourrait me remplacer? Je donne un cours. Et je t'ai payé 35 euros de l'heure. Je me suis dit, putain, c'est pas mal, ce truc-là. Et je me rends compte du potentiel du truc. Et là, on est super entrepreneurial. Et ma petite sœur, elle me dit, mais mon frère, il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on développe le truc. Aujourd'hui, j'ai 8 profs d'échecs qui bossent pour moi. Ouais. Alors qu'à la base, c'est moi qui donnais juste les cours. C'est que je me suis rapidement rendu compte qu'il y a un truc derrière à faire. Et en plus de ça, c'est hyper utile pour les enfants parce qu'on leur transmet un jeu. Moi, le jeu d'échecs, je pense que c'est un des jeux qui m'a permis d'avoir la vision que j'ai aujourd'hui. C'est ça, j'ai appris à jouer ça que j'avais 11 ans. C'est un dealer de ma cité qui m'a appris à jouer. Et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait...
Un dealer de ta cité qui t'a appris à jouer
aux
échecs.
Ouais. C'est ouf. Carrard. Puis, c'est un boxeur aujourd'hui. Je suis même pas sûr qu'il se souvienne. Carrard Modi, il s'appelle. Il est irakien. Son père, il est docteur et c'est son père qui l'avait appris à jouer.
Putain.
Hein?
Non, mais tu vois, je me mets à la place de tes parents. Je me mets à la place de tes parents où ton gamin, il est en train d'apprendre les échecs avec le dealer de la cité.
Ah, mais pareil, il savait même pas.
Ouais, j'imagine.
Mais en fait, je me suis rendu compte que ce jeu, il t'amène des trucs. Quand j'ai commencé à bosser vers 16 ans, j'avais le BAFA, mais avec spécialité échecs. Et donc, je le mettais sur mon CV et ça a intrigué toujours les recruteurs. Vous avez joué aux échecs? Ah, ok, d'accord. C'est quoi votre ouverture? Vous avez vu ce truc-là? Oui. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc assez jeune. C'est qu'en fait, quand t'as des trucs un petit peu différents par rapport aux autres, en fait, on te voit un peu différemment. Et c'est très bon pour ta confiance en toi. Ça te dit, je vais faire un truc que beaucoup d'êtres humains ne savent pas faire. Et aujourd'hui, je le transmets beaucoup aux enfants. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus à la mode. Mais un mec de banlieue qui joue aux échecs il y a 20 ans, je t'assure qu'il n'y en avait pas des masses. Et j'ai grandi avec ce truc-là, avec ce petit truc différent. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des choses que j'essaie de cultiver. On a tous un petit truc un peu différent. Cultive ce truc un peu différent parce que, comme ça, t'es pas en compétition avec quelqu'un.
Ça te permet de sortir du lot un peu.
Exactement.
Donc aujourd'hui, tu vis de ton art?
Ouais, ouais.
On peut dire ça.
Ouais, carrément.
Comment ça se passe quand on parlait tout à l'heure de l'autoproduction, etc. Ouais. Pour revenir à l'argent, comment ça se passe quand t'es humoriste comme ça, autoproduit, en termes de rentrée de sous, etc. Quoi.
Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle. Parce que
pour toi, alors.
Ouais, ok. Pour moi, l'avantage que j'ai, c'est que je travaille tout le temps, en fait. C'est que je joue entre 30 et 40 fois par mois. Donc, j'additionne les petits comedy clubs qui sont quand même des trucs qui te rapportent 100, 150, 100, 100 euros, 50 euros, mais sauf que tu en fais 30 dans le mois. Mais au bout d'un moment, ça te fait un certain revenu. J'ai mon spectacle. Mon spectacle, c'est une autre œuvre, on veut dire, c'est un autre produit commercial qui est pas le même que le Comedy Club. C'est quelque chose que tu peux faire une billetterie dessus et tu peux le jouer en province, tu peux le vendre à des entreprises. Comme il est thématique, le mien, mon spectacle, on me l'achète. La SNCF, le service pricing analyst de SNCF me l'a acheté. Le musée de l'économie me l'a acheté parce que en fait, c'est un produit qui peut te.
Tu veux dire que la SNCF vient te voir, enfin t'envoie un mail pour te dire salut, on voudrait.
Ouais, vu la happiness manager de la SNCF que je salue, Bérangère.
Coucou, cool. Bérangère.
m'avait vu sur scène, me connaissait parce que je produis. Après, je pense la casquette producteur qui me rapporte également de l'argent. Je produis un spectacle qui s'appelle One More Joke et elle me voyait sur scène et elle m'a dit il faut que tu viennes jouer ton spectacle et donc je l'ai joué. Elle me l'a acheté comme ça, donc ça me donne une autre manière de faire de l'argent. C'est les débuts qui sont difficiles. En fait, je me suis pas rendu compte, et on se rend pas forcément compte, c'est que beaucoup de gens pensent que tu dois être une star pour vivre de l'humour, c'est pas du tout le cas. C'est que dès que tu passes un certain palier, au bout de 6, 7, 8 ans, t'es tellement dedans et t'es tellement normalement bon, t'es connu un petit peu, c'est qu'en fait t'as des propositions tout le temps. Donc, et ça suffit entre les plateaux où t'es ce qu'on appelle un headliner. Quand maintenant je suis sur un plateau, je reçois des messages, mon planning, on m'appelle, certes tu veux jouer là, et tu refuses, t'acceptes, tu dis bon allez, je vais en accepter 30 dans le mois, et ça te permet, ok, 2 500 euros que pour ça. Ton spectacle, tu vas le jouer, il te rapporte en fonction de bon là, moi j'ai gagné 1000 balles ce mois-ci, mais je sais pour le spectacle, mais je sais que je l'ai vendu deux fois ce mois-ci, et j'ai vendu deux fois 3000 euros, donc j'ai gagné 6000 à côté.
Ok.
Avec le spectacle, qui est une autre source de revenus. Il y a la SACD, je fais des captats télévisés, des émissions, des trucs à la radio, rire et chansons,
SACD, c'est les droits d'auteur.
Ouais, comme la SACEM pour les chanteurs.
Je vous invite à aller écouter l'épisode avec Navo, parce qu'on a, j'ai interviewé Navo, il en parle longuement.
Navo, je pense qu'il s'y connaît en SACD, quoi. Il sait très bien ce que c'est. Il doit très bien savoir ce que c'est, Navo, parce qu'il est auteur, et quand t'es auteur, donc un humoriste, c'est un auteur, donc t'as les droits d'auteur qui reviennent régulièrement. Je suis producteur de spectacles, donc je produis des spectacles. Là, j'en produis à la Tour Eiffel, j'écris des visites stand-up pour le Louvre. Donc ça, c'est des choses qui me rapportent de l'argent en tant que producteur. Donc là, c'est la billetterie ou des sessions.
C'est toi qui produis One More Joke?
C'est moi qui l'ai créé.
C'est toi qui l'ai créé
en 2016, ouais.
Ok, d'accord.
Donc je produis, on fait des shows à la Tour Eiffel, là, on fait des trucs pour la télévision. Donc ça, c'est la marque One More Joke qui est plus grande que moi d'ailleurs. C'est comme si j'avais un enfant qui est plus connu que moi. Mais comme c'est ma marque, il me rapporte de l'argent. Donc en fait, tout ça additionné. Puis
et ça, c'est toi qui le gères ou t'as créé une équipe autour de toi maintenant?
J'ai trois boîtes de prod différentes.
Okay.
Une pour moi tout seul, ça s'appelle Yata Productions, qui s'occupe de moi, de mes spectacles, de mes cours que je peux donner, de mes tournées et tout, où je paye, où j'ai une chargée de production que je paye tous les mois, qui s'occupe de mes réseaux sociaux, tout ça, de mes graphismes. J'ai Pangé Productions, dans laquelle je produis, c'est des potes à moi, on l'a créé en 2018. En fait, j'étais produit par Juste Pour Rire pendant quelques mois avant le claquement de Gilbert Rozon. Donc je jouais au 13e art.
Si vous avez pas suivi, mais en gros, il y a eu une sorte d'affaire MeToo avec ce mec qui était un peu le Mister humour au Québec en fait.
Et en France, hein. Ouais. C'est le créateur de Juste Pour Rire. Je pense qu'il était à l'époque la plus grosse marque d'humour au monde. Et après, je me suis rendu compte que je me suis dit, je peux faire tout seul en fait. Donc, et là, j'ai demandé à deux potes à moi, à Stan, qui est le celui qui je monte mes trucs depuis quand il est tout petit.
FIFA.
Qu'on réussisse.
Le mec de FIFA.
C'est le même gars. Qu'on réussisse ou qu'on rate, c'est toujours le même. Et en gâtant. Et j'ai dit, les gars, faut qu'on monte une boîte de prod parce que le stand-up va se développer et il faut que je structurer un peu le truc. Donc on a créé ça, on faisait des cachets pour beaucoup d'artistes donc maintenant on produit des spectacles pour la télévision, le Cyclo Comedy Show. Là j'ai écrit une série pour Free qui s'appelle En Gradin où je suis scénariste et producteur de la série. Donc là on s'occupe de choses comme ça et One More Joke qui commence à grandir. On a créé donc une structure également qui produit que One More Joke. Donc en fait ces trois petites boîtes là additionnées, en fait c'est ça l'avantage d'un métier d'humoriste, c'est que c'est très large comme métier et en fait tes sources de revenus elles sont multiples quand tu bosses. Si tu bosses pas, il y en a pas. Mais moi, je suis pas que humoriste, je suis humoriste et producteur et auteur. Donc ça fait plein de petites choses. Ça fait pas des milliards, hein.
Oui.
Mais ça fait des choses régulièrement. Et plus t'avances, en fait, plus tu sens que, bah, ton salaire, il monte et tu fais, ah, c'est cool. Et normalement, si tu bosses bien, tu retombes plus. C'est toujours incertain. Parce que je pense qu'un artiste, ce sera toujours un peu incertain.
Oui.
Parce que c'est pas tous les mois. T'as pas à part si t'es produit. Mais quand tu te produis tout seul, ben voilà, je me fixe toujours d'essayer de faire minimum 5000 euros par mois. Enfin, ça peut monter parce que j'ai avoir un gros contrat, un gros truc, mais il faut que je me débrouille pour jamais être en dessous de 5000 euros par mois, par exemple.
Dans ta poche.
Dans ma poche.
Et franchement, au bout de 7-8 ans.
Ouais, 7-8 ans.
C'est canon. Mais alors, en revanche, pendant 6, tu disais au bout de 6-7 ans, normalement, tu finis par avoir.
Ouais.
T'as 6-7 ans où c'est un peu.
Ah, où c'est galère.
Plus compliqué.
Ah, c'est littéralement galère. Le loyer, enfin, c'est toujours, ça te prend toute ta thune, tu encaisses tes chapeaux. T'es là, t'attends d'avoir 900, 800 euros de cash pour pouvoir les mettre sur ton compte parce que t'as découvert, tu les mets juste à un moment. Je me souviens très bien. Et parce que tu sais que tu dois faire le virement instantané, ouais. Sinon t'as plus de thune parce que tu gagnes. En fait, ouais.
En gros, les chapeaux, pour expliquer aux gens qui connaissent pas forcément, c'est les gens qui donnent des sous
à la fin du spectacle,
c'est
ça. Et qui sont, quand on dit, et les humoristes disent, ouais, c'est notre revenu. Pour la plupart, c'est vrai.
Ouais.
C'est vraiment leur c'est avec ça qu'ils vont payer leur bouffe, ils vont payer leur loyer et tout. Et parce que quand t'es humoriste débutant, bah t'as pas encore un spectacle,
ouais.
Parce que tu peux vendre 2, 3, 4 000 euros. Et d'ailleurs, moi, au début, quand j'ai eu mon premier spectacle, je le vendais, on me demandait combien, je disais 1 000 euros. Maintenant, en fait, plus tu grandis, plus ta notoriété elle augmente, tu fais des émissions de télé, bah tu dis 5 000, ils disent ok. Ah, et en fait, tu te rends même pas compte que ta valeur elle a augmenté. C'est marrant, en fait. Tu fais le même métier, mais ta valeur, elle augmente. C'est comme si,
Et t'es sûr que si t'étais venu la première fois, enfin, avec ton premier spectacle, et que tu t'étais dit, ouais, en vrai, mon spectacle, il vaut 5 000?
Non.
Il t'aurait envoyé bouler,
tu vois?
Ouais,
parce qu'en fait, quelqu'un, ils auraient rendu compte qu'avec 5 000, ils auraient eu quelqu'un qui a plus d'expérience,
ouais.
Plus de visibilité. En fait, il y a des espèces de prix un peu instaurés. Ils ont entre 500 et 1500 pour un débutant. Quand tu commences à être un peu connu, entre 3 et 6 000, et il y a des mecs qui vendent leur spectacle, je connais quelqu'un qui a vendu son spectacle il n'y a pas très longtemps, 200 000 euros, l'heure. Voilà, l'heure, ça va, quoi.
200 000 euros, c'est
ouais.
Pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
Quand t'arrives à 200 000 euros, t'es là, bon.
C'est superstar.
Après, tu le fais pas tous les jours, j'imagine.
Non, mais bon, c'est. Tu pourrais presque le faire. Tu le fais pas tous les jours, mais tu pourrais.
Tu pourrais le faire une fois par an et te dire.
Bon, ils peuvent le faire une fois par semaine. Hein.
C'est pas en vacances.
Ils peuvent le faire une fois par semaine. En fait, ça t'arrive à un stade où tu dis, bon, est-ce que j'ai envie d'acheter une maison? Ah, ok, allez, je vais faire un nouveau spectacle.
Comment je fais pour payer mes impôts?
Bah, et c'est un peu, en fait, c'est pour ça qu'il faut, après, faut pas que l'argent soit un moteur, parce que sinon, t'écris pas de la même manière, tu travailles pas de la même manière. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette espèce d'indépendance. En même temps, ça l'est, parce que quand tu commences, c'est la grinta qui te force à écrire, à travailler, à être bon, à jouer, parce que t'as besoin pour pouvoir avoir de l'argent, mais il faut pas que ce soit toujours ça, parce que sinon, tu peux vite tourner en rond. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs comme Haroun qui prennent du recul et qui, ok, j'arrête, ou comme Blanche, il dit ok, j'arrête, alors qu'il pourrait y jouer tout le temps et il ferait beaucoup plus de thunes.
C'est clair, ouais. Et surtout, enfin, Haroun, il y a un vrai truc aussi où lui, il a carrément créé, un peu comme toi avec
Warner Bros, ouais.
Il a créé sa marque,
ouais,
etc.
Carrément.
Il est devenu un vrai businessman en tant que tel, quoi.
Bah, je pense qu'il y aura de plus en plus d'humoristes qui vont devenir leur propre patron. Parce que, on a de moins en moins de besoin d'intermédiaires. La technologie fait que tu peux faire beaucoup de choses. Si t'es un petit peu débrouillard et que tu génères, un humoriste peut générer pas mal d'argent. Si tu arrives à générer entre 3 et 5 et 6 000 euros par mois, bah, en fait, tu payes quelqu'un 500 balles par mois et il va te faire tous ces trucs-là, quoi, en fait. Et donc, tu dis, au lieu de donner 80% de mes revenus, bah, je vais donner à un producteur, bah, je vais donner 10% de mes revenus à quelqu'un qui va m'aider à devenir moi producteur.
Ouais. Mais, ceci dit, j'ai un peu l'impression que t'avais cette fibre là, commerciale, commerçante.
Ouais,
t'étais tout gamin,
quoi. C'est un état d'esprit. Tout le monde ne l'a pas forcément, c'est sûr.
Et en fait, je me demandais un peu d'où vient cette éducation à l'argent. Tu vois, tu racontes tes parents n'avaient pas beaucoup,
ouais.
Machin, etc. Ton père, il t'a dit, oh, on n'est pas pauvre. Enfin, on n'est pas pauvre. On a juste pas d'argent. Mais ça t'est venu d'où, toi?
Bah bon, partie 2. Mais en fait, je pense que moi, l'argent, j'ai vraiment ce truc, c'est ce qui me motive et qui m'excite, c'est de créer des trucs. Et c'est juste, c'est un flux, je vois vraiment l'argent comme un flux. C'est-à-dire que j'arrête pas, depuis que je suis tout petit, je fais des trucs et il n'y avait pas forcément l'argent qui circulait. Maintenant, il y a de l'argent qui circule, mais c'est toujours la même envie. Et je pense que c'est l'entrepreneuriat qui m'excite plus que l'argent. D'ailleurs, je pense que beaucoup de les multimilliardaires, enfin, c'est pas l'argent qui les motive, sinon ils arrêteraient. Jeff Bezos, il peut vivre pour les 25 000 prochaines générations. C'est pas l'argent qui motive ce monsieur. Il en a, c'est plus que l'espérance de vie de la Terre, probablement. Donc, c'est autre chose. Et moi, c'est ça. C'est autre chose. J'ai compris, je suis pas stupide qu'on est dans un monde capitaliste qui fait que l'argent doit circuler. Mais vraiment, c'est, ok, je suis dans le monde de l'humour. Qu'est-ce que je peux amener dans ce milieu? Qu'est-ce que je peux créer de nouveau? Qu'est-ce que je peux amener? Quelle personne je peux rencontrer? Qui peut faire? Et c'est ça qui m'excite. Et l'argent est juste un truc entre les deux.
Mais tu vois, avec des, ce que je me disais aussi, c'est que avec des parents qui avaient aussi peu d'argent, t'as eu un vrai truc à un moment donné de, ok, bah en fait, je vais faire des trucs,
ouais.
Mais je vais aussi mettre de l'argent en face parce que ouais. J'ai reçu notamment dans ce podcast, tu vois, des gens qui font des trucs,
ouais.
Mais qui ont un mal fou à le valoriser ouais. En termes de thunes, quoi, ouais. Tout simplement.
Bah j'ai eu ça pendant longtemps, cette espèce de syndrome de l'imposteur où tu t'oses pas demander de l'argent. D'ailleurs, jusqu'à présent, je suis pas non plus un expert de ça et c'est pour ça que je m'entoure. Hein. Vraiment, c'est pour ça que je m'entoure. Il faut savoir ses faiblesses. C'est que moi, je suis pas un créateur d'argent. Je suis un créateur d'opportunités, un créateur de projets. Et j'ai des gens qui vont m'aider à faire en sorte que ce soit rentable et qui, parce que moi, les tableaux, ça m'angoisse un petit peu.
Tableau Excel, tu
ouais,
veux dire?
Ouais, ça m'angoisse un peu. Sauf qu'en fait, je crée tellement de trucs que forcément, il y a de l'argent qui vient dans le sillage. Mais je suis vraiment pas un expert.
C'est plutôt tes potes, c'est ça, avec qui ouais. Tu joues à FIFA, qui sont dans le
ouais,
dans le game de l'argent,
qui ont ça. Et moi, surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, au-dessus de l'argent, c'est les gens, c'est que je crée tellement de trucs qu'en fait, forcément, il y aura de l'argent qui va être généré. Après, il y a des gens effectivement qui pensent d'abord à l'argent parce que je pense que la manière dont je vois l'argent et la manière dont je bosse fait que je pense pas que je serai riche. J'agis pas la manière dont j'agis. Elle est pas créatrice de valeur d'argent. Je serais déjà riche en fait. La quantité de travail que je fournis, ouais. Je serais déjà riche sinon. Je travaille tout le temps. Mais il y a des gens qui travaillent 10 000 fois moins que moi, qui font beaucoup plus d'argent. Je suis pas fort pour créer de l'argent. Je suis pas fort pour ça. Je suis fort pour créer d'autres choses. Et mes potes, ils m'aident un peu à oui, il faut qu'on fasse 20% de marge. J'y pense même pas à ça. J'y pense même pas. C'est pour ça, là, faut savoir s'entourer de personnes qui savent le faire.
T'as la sensation que t'as écrit ce spectacle aussi pour faire ta propre thérapie par rapport à ça ou?
Un peu. Parce que, et comme je dis un peu à la fin du spectacle, je me suis rendu compte que, en voulant écrire un spectacle sur l'argent, j'arrive même pas à faire d'argent pratiquement avec, enfin un peu quand même, j'exagère un petit peu. Le truc des entreprises, ça c'est assez cool parce que ouais. C'est ça qui rapporte le spectacle en lui-même. En jouer toutes les semaines, c'est un kiff. Ce soir je joue, c'est un kiff. Il y a pas les masses de monde, il commence à faire beau et tout. Je pense que je vais perdre de l'argent ce soir en jouant, mais c'est pas grave. C'est le kiff vraiment de les gens, ils sortent et qu'il est à l'esprit. Bon, je donne pas tout le truc, mais je pense que j'ai réussi à m'en détacher un peu, le fait que ça me rend pas malheureux, et c'est ça que j'ai envie de transmettre un peu aux gens. Plus que, je dis pas que c'est pas important, je peux être dans la naïveté, c'est pas important, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai une petite maison avec un petit jardin, je suis trop content, tu vois, je peux m'acheter. Là, je suis parti 3 jours à Porto pour me détendre tout seul, je peux faire ça maintenant, je pouvais pas le faire avant. Donc ça m'apporte des choses comme ça qui sont trop cool. Et je passais mon temps à 3 jours en vacances à travailler, donc faut dire à quel point j'arrive pas à faire autre chose. Je suis complètement addict au travail. Je suis pas addict à l'argent, par contre, je suis addict au travail, je pense.
Oui, tu penses que c'est important pour toi de travailler?
Ouais, parce que, en fait, c'est la vieille phrase de Confucius, mais qui disait, tu faisais un métier que tu aimes, tu auras besoin de jamais travailler, ou la phrase de, comment il s'appelle, Dean Burbigo, qui dit, j'aime tout ce que je fais parce que je fais que ce que j'aime. C'est un peu ça, c'est que je le ressens même pas. Et Orelsan qui dit une autre phrase, il me dit, ouais, ils disent, les gens, tu travailles trop, alors que les gens disent que je travaille trop, alors qu'ils savent pas que dans ma tête, je suis tout le temps en vacances.
Ouais.
C'est vraiment un peu cet état d'esprit-là, quoi.
Merci pour ça, parce que c'est vrai que c'est important. Tu parles du troc aussi à la fin de ton spectacle.
Ouais, ouais.
Je voulais t'en faire parler un petit peu. Pourquoi t'as voulu parler du troc?
Ben, en fait, en faisant des recherches sur l'argent, je me suis rendu compte, bon, j'ai simplifié dans le spectacle, c'est que l'argent, je parle de la première pièce de monnaie qui a été inventée il y a 2700 ans par le roi de Lydie. Et c'est que avant, effectivement, l'essentiel, c'était les petits villages, donc on faisait du troc. L'argent, la notion d'argent n'existait pas forcément. On troquait. Et je dis que l'humanité existe depuis très longtemps. L'argent est assez récent dans l'histoire de l'humanité. Et qu'on l'a créé parce que il fallait simplifier les échanges. Quand les villes commencent à devenir très grandes, tu peux pas tout noter. D'ailleurs, un truc qui peut intéresser avec l'argent, c'est qu'on a appris à écrire, l'être humain a appris à écrire pour compter l'argent. Les tablettes d'argile en Mésopotamie, c'était des livres de compte. On a appris à écrire pour compter l'argent. Parce que il fallait commencer à noter les transactions et tout. Et en fait, ce que je dis dans le troc, c'est que l'état d'esprit du troc est intéressant. C'est une espèce d'utilité sociale qu'on avait. Et la conclusion un peu du spectacle, c'est que je disais sur les services rendus, c'est que c'est un peu l'équivalent des services rendus. C'est que le troc, il n'existera pas aujourd'hui, c'est mort. On peut pas. Il y a trop la finance, la bourse, les crypto-monnaies ont fait que ça rend le truc obsolète. Par contre, l'état d'esprit du troc, je pense qu'il est important. C'est-à-dire que comment être utile autour de toi pour pouvoir on échange tous les jours des trucs, tu vois, tu sais coiffer, l'autre il aime bien garder des enfants, j'ai de coiffer et tu gardes mes enfants, tu sais faire à bouffer, elle il est un peu costaud, tu m'aides à ménager, j'ai de faire, tu vois, on a toujours cet état d'esprit là, le garder à l'esprit parce qu'en fait ça te permet d'avoir accès à plein de choses, je dis pas de revenir au troc, de supprimer l'argent, mais l'état d'esprit du troc est important, surtout quand t'as pas des masses de thunes, parce que sinon tu dois tout acheter en fait. Et si tu dois tout acheter, tu peux pas tout avoir. Alors que si tu peux donner de ta personne, tu peux accéder à des choses. Je dis une phrase où je dis, j'ai tellement rendu de service que je peux prendre ma retraite l'année prochaine. Ça, j'exagère un petit peu, mais l'idée, elle est là un petit peu. Et c'est ça que je transmets un peu dans le spectacle, c'est que tu pourras pas tout acheter. Mais tu pourras avoir accès à des trucs que tu n'aurais pas forcément accès. Quand j'ai ouvert mon resto, il y a le chef cuisinier du Kong, qui est un grand restaurant, qui nous a aidé à faire la carte parce que je lui avais rendu service sur un truc. Sinon, j'aurais pas pu payer ce mec-là. Mais tu vois, l'être humain, il oublie le service rendu, le troc, a la même valeur que l'argent. Quand je te rends un service, moralement, tu te dis, il m'a rendu service. Toi, t'oublies pas un service que t'as rendu. Tu vas lui rendre. Quand je te prends de l'argent, moralement, tu vas me le rendre. C'est la même valeur. C'est la même valeur. Et on l'oublie parfois, je pense.
Et puis c'est cool, ça ramène aussi l'idée de la tribu et de la communauté et tout. Il y a un truc très de faire ensemble, quoi.
C'est ça. Et l'argent rend complètement individuel. L'argent dépersonnifie les gens. C'est-à-dire qu'un virement bancaire, quelle que soit la personne, t'en fiches alors qu'un service, il est quand même d'un homme à un homme. Et dans ce monde très individuel avec les réseaux sociaux, tout ça, je pense que c'est assez important.
Merci, certes. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? On a parlé plein de trucs.
On a parlé plein de trucs, on a parlé d'argent. J'ai un truc, j'ai pas réussi à le rendre drôle encore. Okay. C'est ça qui va être en évolution perpétuelle.
Tu continues à l'écrire tout le temps.
J'ai rajouté des trucs, je modifie des choses. Là, je suis en train d'écrire un nouveau set sur l'addiction au jeu d'argent. Ouais. Mon père était addict au jeu d'argent quand j'étais jeune. Et les marques, aujourd'hui, elles sont hyper agressives. Ouais. Elles sont très agressives avec ça, on n'en parle pas et
sur
tout.
Sur les paris.
Les paris, c'est incroyable. Winamax, il dit, mets ta daronne à l'abri. C'est incroyable d'avoir des slogans comme ça. C'est incroyable. Et parce qu'en fait, vu qu'on nous a mis l'argent comme espèce de dieu, tu vas chercher toutes les manières qui vont te permettre de l'avoir. Ouais. Que ce soit légal ou illégal, que ce soit truc. Et c'est dur, quoi. C'est dur. T'es jeune, t'as 16, 17, 18 ans, t'es encore assez vulnérable. On te dit, viens dans la tribu, parie avec nous. Arrête de dire ça aux gens, quoi. Statistiquement, c'est faux. Tu vois, c'est le principe d'une pyramide de Ponzi. C'est qu'il y en a 10 qui vont gagner et tous les autres, ils vont perdre, quoi. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, je suis plus dans les cryptos non plus. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est que, pour que, il y ait les gars qui prennent beaucoup, c'est mathématique. Ouais. Il faut qu'il y ait des gens qui achètent pour que les autres puissent vendre. Enfin, c'est le principe de l'économie, quoi, en fait. Donc, quand tu as compris un peu les règles, tu fais, attention, quoi. Et tu sais, par exemple, par rapport aux cryptos, tu sais ce qui m'a fait arrêter? J'ai eu un déclic, j'en avais. Quand confinement, il y a plein de gens qui avaient des cryptos, je pense qu'ils se sont un peu mis dessus. Un jour, j'ai ramené ma mère, elle est femme de ménage, je la ramène à travailler à Pigalle, vers place de Clichy. Et j'ai ramené au travail à 5h du matin, elle se lève tous les jours à 3h30 pour prendre le train ligne H, pour arriver à 5h30 à son travail et faire le ménage. Et je l'amène parce que mon père était pas là. Et donc, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Je dis, putain, c'est vrai qu'elle fait ça. Depuis 36 ans, la dame. Je l'emmène au travail et je reçois mes notifs. J'avais des cryptos. Je reçois une notif et j'avais pris, je crois, 1 800 € sur un truc. 1 900, presque 2 000 €. Et je ramène ma mère au travail. Et je vois ça, juste en l'ayant déposé, je fais, je viens de prendre en 2 jours, même pas une journée, sur une transaction, que ma mère a fait en nettoyant des chiottes de gens pendant un mois. Et ma mère, elle n'aurait jamais accès à ça parce qu'elle n'est pas initiée à ça. C'est un truc d'initié. Tous les gens qui ne sont pas initiés, ils n'auront pas accès. C'est parce que moi, je suis initié que j'ai pu avoir accès à ça. Et en fait, la seule manière que je puisse avoir cette thune-là, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment. Et je n'ai pas envie de... Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais en fait, c'était flagrant. C'est pas normal que je vienne faire autant de thunes en 3-4 clics qu'une dame qui... C'est pas normal. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et donc ça m'a fait sortir un peu du truc. Je sais pas pourquoi je te donne cet exemple-là.
Parce que c'est intéressant.
Et le dernier truc que je pensais par rapport à la thune, par rapport aux milliardaires, je pense que c'est trop inégalitaire et que l'argent amène l'argent. C'est plus facile de transformer 1 million d'euros en 2 millions d'euros que de transformer 1 euro en 2 euros. C'est que en fait, c'est dur à créer cette règle, cette loi, mais... en fait, il y a mécaniquement, je vois pas comment Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg peuvent c'est trop tard. Ils ont atteint des niveaux où ils peuvent plus quasiment tomber, à part les buter. Il faut pas les buter, hein. Mais c'est mécaniquement impossible, en fait. Le système, il est lancé et qui va, ça faire que s'engraisser. C'est une espèce de machine qui faut que s'engraisser. Avant, il y avait une limite. Avant la technologie, il y avait une limite physique. Gengis Khan, il pouvait pas conquérir le monde. Il y avait une limite, en fait. Jules César, il pouvait pas prendre la planète en entière. Il y avait une limite physique. Aujourd'hui, Zuckerberg, il a 2 milliards de clients. Il pouvait pas avoir ça, Jules César. Gengis Khan, oui, Hitler, tu vois, il pouvait pas avoir ça. Eux, ils peuvent. Et ça va faire que grossir. Donc, ces mecs-là, techniquement, il y a rien qui peut les arrêter quand ils ont réussi à atteindre ces niveaux de trucs. Et je me dis, c'est peut-être un truc, c'est que, c'est moralement très difficile parce que c'est à l'opposé du capitalisme, mais c'est faut limiter les fortunes, en fait, quoi. Mmh. Ce que je dis un peu dans le spectacle, c'est que je suis dans, en fait, mais c'est la liberté d'entrepreneuriat. Il y a rien que je suis un entrepreneur, il y a pas de souci.
Oui.
Mais moi j'adore ça, l'entrepreneuriat.
Limite aussi, quoi.
Mais sinon, en fait, tu casses le game, en fait. En faisant ça, tu défonces l'entrepreneuriat parce qu'ils vont racheter toutes les boîtes qui vont les concurrencer. En fait, tu défonces le truc. Est-ce qu'on n'aimerait pas, tu vois, pour avoir travaillé dans des gros groupes, est-ce qu'on n'aimerait pas t'as deux choix. Disons qu'on a deux choix. Une boîte qui a 1000 employés ou 10 boîtes qui ont 100 employés. Est-ce qu'on se rend pas mieux dans une boîte où il y a 100 employés, où tu connais un peu tout le monde, où il y a une espèce de sentiment un peu, une PME un peu familiale, ou une boîte où il y a 1000 employés, où tu connaîtras jamais tout le monde. Et là, Jeff Bezos, il a 1,7 million d'employés. C'est quand même beaucoup, quoi. Donc, en fait, je pense qu'il y a une espèce de switch qui est hyper difficile. Je pense que même pour la planète, ça sera beaucoup mieux que des boîtes tentaculaires. C'est incroyable. Tu peux pas avoir autant d'employés. C'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Et on se rend pas forcément compte.
Ah, c'est clair. Je suis très d'accord avec toi.
Mais on laisse, vu qu'on est occupé à courir après l'argent, on n'a pas le temps de la réflexion. C'est là, je pense que le métier des artistes, le métier de, bon, c'est de se poser un petit peu, de prendre un peu de recul par rapport à ça pour pouvoir apporter juste regarder. Les gens, parce que on sait que vous n'avez pas le temps. C'est pas de votre faute. Vous courez après la thune, quoi. Parce qu'il faut qu'on court après la thune.
Merci, certes.
Putain, j'ai parlé plus alors que tu m'as dit de clôturer.
Mais pas du tout. Okay. Enfin, n'importe quoi.
Merci Fabrice pour l'invitation.
Je t'invite pas toi à venir te voir en spectacle. Tu le sais déjà, tu le connais ton spectacle. Non, oui, je vous invite vraiment à aller voir certes ton spectacle, d'aller te suivre. Donc c'est @certmaturin sur Insta, ouais. et je vous mettrai le lien. Donc t'as un site internet,
ouais,
certmaturin.com, parce que le mec il a un .com comme Jeff Bezos. Voilà.
C'est peut-être le seul point commun que j'ai avec le monsieur.
Merci beaucoup, c'était cool.
Merci encore à toi.
Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez une histoire ou un rapport particulier à l'argent et que vous pensez que vous avez des choses à raconter à mon micro par rapport à l'argent, justement, envoyez-moi un mail sur argent@fabflorent.com. Donc c'est argent@fabflorent.com. Vous pouvez aussi m'envoyer un message vocal en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou en enregistrant une note vocale sur votre téléphone que vous m'envoyez par mail sur vocal@fabflorent.com. Si le podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de me taguer sur @fabflorent histoire que je puisse vous voir. Un grand merci encore pour votre fidélité et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle vie.